Voilà. Il y a quelques absents, mais je vois le temps qui passe. Alors, donc, au niveau là du programme, donc on va chambouler un tout petit peu une petite chose. Donc, intervention de Thierry Pasquier, qui est chez nous, donc le responsable de communication, et qui est très très au point sur tout ce qui est logiciel, y compris logiciel libre. Juste pour dire que là ça existe et que c'est bien que ça existe. Donc il va vous présenter une ou deux façons de pouvoir relayer en fait les informations au niveau des manifestations qu'on peut organiser les uns et les autres. Plutôt que de en fait communiquer par mail ou autre, l'idée en fait ce serait de faire sur votre site internet un article qui présente votre manifestation, et éventuellement de m'envoyer l'adresse de cet article. Et en fait, en l'adressant, nous, on va le signaler. Et en fait, en le signalant, ça permet à toutes les personnes qui sont, on va dire, abonnées, mais on peut y aller simplement en consultation libre, hein, de voir l'article. Donc ça peut être vrai pour une manifestation, mais aussi pour un événement astro, même du ciel. On détecte une comète, tac, on va signaler l'article, et comme ça, tout le monde peut voir cet article-là qui est signalé comme intéressant. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Thierry qui va vous présenter ça. Mais là, on va tourner en fait la présentation et vraiment en conversation. Hein. Ce sera peut-être plus pratique pour Thierry pour présenter ce qu'il a présenté. Et après, pourquoi pas voir s'il y a d'autres possibilités que ce système-là. Voilà.
Oui, bonsoir. Donc, effectivement, l'idée, c'est de voir quel outil on pourrait utiliser en commun. Nous, on peut vous proposer un certain nombre de choses. On a travaillé récemment sur deux outils, un de sélection, un petit peu comme ce que vient de dire Eric, d'informations au travers de différentes sources, et qui peut être très utile pour animer un réseau comme celui que vous constituez, et un autre plus orienté en termes d'agenda. Mais on peut aussi vous fournir à la demande aussi des outils assez basiques comme des listes de diffusion mail ou des choses comme ça. On a une infrastructure qui nous permettrait de vous le fournir à la demande. Vous savez que très souvent les mails, c'est un problème parce qu'on a nos adresses mail personnelles, on envoie nos mails en nombre aux adhérents. Parfois, il y a des gens qui ne reçoivent pas, etc. Donc, il y a une vraie problématique. Et c'est aussi comme ça que l'information... Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais aujourd'hui, je crois que la plupart des gens ont l'information par mail. Et donc, si vous avez besoin de listes de diffusion ou des choses comme ça, on peut vous le fournir. C'est le côté très, très basique. Donc, il suffit de s'adresser à Eric et puis... on va en mettre une en place globalement pour informer le réseau. Quoi.
Voilà, par rapport aux listes de diffusion, il y a une liste qu'on a créée ici qui s'appelle Astro EMF. Donc là, c'est piloté ici et de temps en temps, donc j'envoie des messages à cette liste-là pour des invitations à des conférences ou pour présenter quelques manifestations dans le mois suivant. Mais pour ceux qui sont dans cette liste-là, je ne vous submerge absolument pas de mails parce que c'est très irrégulier, parce que là, c'est moi qui fais l'information et je n'ai pas toujours le temps. Et c'est pour ça que cette liste-là, bon, elle est intéressante, mais par rapport au temps que j'ai, je ne peux pas la suivre vraiment de façon régulière tous les 15 jours, tous les mois. Donc, c'est assez irrégulier. Ça part quand ça part. Des fois un peu tard, des fois trop tôt. Enfin, c'est toujours dur à gérer. Mais ça existe. Et donc, si vous voulez vous abonner à la liste, il suffit tout à l'heure de me laisser vos coordonnées au niveau du mail. Et puis, je vous rajoute dans la liste, hein, sachant qu'elle est parfaitement ouverte. Et à tout moment, vous pouvez vous désinscrire. Il n'y a aucun souci par rapport à ça.
L'idée aussi d'utiliser des listes de diffusion bien faite, entre guillemets, et pas des carnets d'adresses, c'est aussi que les gens ont la possibilité effectivement de s'inscrire, de se désinscrire. Donc il y a une obligation légale quand on gère des fichiers de mail par rapport à la gestion des informations personnelles des abonnés. Donc avec Céline, que vous avez rencontrée là toute la journée, donc, on a mis en place récemment un outil donc, qui concerne plusieurs thématiques abordées par l'Espace Mondes France, pas seulement l'astronomie, mais créativité et territoire, la revue L'Actualité, etc. Mais y compris... Oui, donc il ne veut pas me... Bon, d'accord.
C'est pour ça que je préfère que ce soit toi qui le présente.
C'est toujours le... voilà. Donc là, y compris l'astronomie. Donc cet outil-là, en fait, est pas un site, se présente sous la forme d'un site Internet, mais pour nous, c'est aussi un outil de veille de ce qui se fait, donc évidemment au niveau de l'actualité astronomique, mais aussi, par exemple, au niveau de l'actualité locale ou de la recherche en région ou de toutes les sources d'intérêt. Donc pour nous, cet outil-là agrège en fait tout un tas de sources d'informations. Céline ou Eric ou d'autres dans la maison ou dans les labos ou dans les associations sélectionnent les informations qui leur semblent pertinentes et la font suivre au réseau. Donc voilà, ça c'est la dernière sélection. Et éventuellement en amenant des petits commentaires. Donc c'est une sorte de je sélectionne pour vous. Donc si ça vous intéresse, ben, vous suivez le fil d'informations. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. C'est des outils libres, gratuits. Pas libres, gratuits. Eric pourra vous envoyer. Donc l'information s'appelle Scoop.it. Donc je vais assez rapidement, hein, puis on va en discuter. Le deuxième outil qu'on promeut pour animer un réseau, bon là je ne l'ai pas mis sur la thématique astronomie, mais autour de la question des communs, c'est une sorte d'agenda commun où les gens évidemment annoncent leurs événements, donc évidemment nous-mêmes aussi, et on agrège tous les événements des uns et des autres sous la forme d'un agenda auquel, alors ça se présente sous la forme, sur le site, ça se présente sous la forme d'une liste avec une carte pour, bon là, une manifestation mondiale, donc il y a des mentions un petit peu partout. Mais l'idée, c'est qu'avec votre Outlook ou avec votre lecteur de mail, vous pouvez vous abonner, vous, à ce site-là et avoir dans votre agenda personnel. Donc on est de plus en plus nombreux, j'imagine que vous utilisez aussi des agendas personnels. En fait, maintenant, on peut les avoir, je ne l'ai pas ici, sur les portables, donc pour gérer ses propres rendez-vous, etc. Là, avec ces outils-là, on peut connecter son portable et son agenda sur son portable à des agendas thématiques. Évidemment, ça suppose qu'à l'autre bout de la chaîne, les gens alimentent l'agenda avec leurs dates. Donc c'est ça un petit peu l'enjeu. Donc là, il y a deux façons de faire, encore une fois. Nous, on le fait pour les dates qu'on connaît, mais ça peut être bien que vous le fassiez éventuellement. Pour le faire, il suffit de... Là encore, c'est une plateforme... Je n'ai pas le rouge, c'est bizarre. Ah oui. Il suffit de s'abonner ou d'ouvrir un compte sur la plateforme qui s'appelle Open Agenda, de nous en informer, et nous, on agrège automatiquement vos événements, et vous publiez vos propres événements. C'est la façon la plus simple de faire, et au final, on peut se retrouver avec, sur nos smartphones, sur nos Outlook, sur nos, etc., avoir un agenda personnel de l'actualité astronomique et, générée par le réseau. Et éventuellement d'aller jusqu'au bout et de mettre une date en rendez-vous et avec les rappels, etc. Je vous en prie. Ces outils sont sur votre... Non, là, ces deux outils que je vous présente, Scoop.it et Open Agenda, sont des outils, c'est des plateformes en ligne. On n'a aucun rapport avec les concepteurs, on les connaît parce que... Mais non, ce sont des plateformes gratuites. On peut les référencer sur notre site, mais vous pouvez vous y abonner personnellement et les utiliser dans le cadre de l'astronomie ou dans un autre cadre tout à fait gratuitement. Enfin, Open Agenda est complètement gratuit. Scoop.it peut être payant pour une utilisation professionnelle qu'on a à nous, mais pour une utilisation basique, pour une asso ou une utilisation personnelle, il n'y a pas de limitation en fait dans la version gratuite. Voilà, donc les mails, les agendas et l'information, voilà trois outils qu'on vous propose de mutualiser éventuellement ou d'animer pour le réseau. Là, je vous en parle rapidement. On pourra faire une petite notice et Eric vous l'enverra pour que vous puissiez avancer éventuellement si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je veux pas. Peut-être que le plus simple, c'est de donner le micro aux participants et de voir que vous. Si vous avez des réactions ou si vous avez besoin d'autres ou d'outils spécifiques ou des idées particulières aussi qui pourraient servir pour l'animation du réseau. Eric m'a demandé de faire vite, donc je vais faire vite.
Merci. Donc, voilà. Sachant que, enfin, par rapport aux actions uniquement Mendès France, on peut s'abonner aussi à des agendas type Google.
Oui.
Et là, donc, ça serait aller plus loin parce que, mais. Là, effectivement, pour entrer les autres dates avec Open Agenda, eh bien, il faut que chacun rentre les dates.
Voilà. L'idée de ça, c'est qu'il vaut mieux que ce soit les gens qui animent, qui mais entrent leurs dates, plutôt que d'envoyer les dates. S'il y a des changements, ce n'est pas à jour, etc. etc.
Il y a un intérêt en plus ? En plus, non, la seule chose, c'est qu'il est libre. Là. Alors, Google, c'est privé. Enfin, voilà. Non, mais ça ressemble. En fait, Open Agenda ressemble beaucoup aux agendas Google.
C'est un oui, peu la conversation. Sauf que la possibilité qu'on a, oui, ça ressemble, mais les agendas Google ou les agendas Outlook ou les agendas sont des agendas personnels. Donc vous pouvez les utiliser. Il y a beaucoup d'assos ou beaucoup de personnes qui utilisent ces agendas pour publier leurs informations. L'avantage de le faire ici. De faire comme ça, c'est qu'on peut agréger toutes les dates en un seul agenda. Mais il y a des ponts possibles entre les deux. C'est-à-dire, nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est ce qu'on montrait avec ce schéma-là, en essayant de faire des ponts, justement, entre les agendas personnels et les trucs. C'est quelque chose qu'on est en train de développer pour automatiser. Par exemple, il y a plein de gens qui publient leurs dates sur leur site Internet. C'est vrai que c'est bête de publier deux fois. Donc, s'ils publient sur leur site Internet, c'est très bien. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un pont entre ce site Internet et Open Agenda pour que les dates puissent s'agréger. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler de manière pragmatique. Quoi.
Et après, enfin, d'un point de vue très personnel, par rapport à un Open Agenda, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de dates. C'est-à-dire que dans une association, s'il n'y a que deux, trois rendez-vous en année... Passer par un agenda, ça me semble un peu compliqué, alors que publier des articles...
Que ça, même s'il n'y a que peu de dates dans l'année, ça permet de les faire connaître. Et,
oui, non mais...
Je pense que pour faire connaître les dates, il faut les publier longtemps à l'avance. Le principal, c'est qu'elles soient publiées et qu'elles soient justes, quoi, que l'information n'ait pas changé.
On définit une catégorie avant tout. Enfin, si... Parce que bon, on peut parler d'astronomie et d'autres choses. Je vois, il y a patrimoine,
urbain.
Enfin bon.
C'est l'agenda qui a sa propre thématique. Donc, ce qu'on fera nous, c'est un agenda astronomie, spécifiquement astronomie. Il n'y aura pas de pollution entre guillemets avec d'autres dates. Là, c'était un exemple, c'est-à-dire.
Et sachant que c'est pas forcément un choix, c'est-à-dire qu'on peut faire les deux. Hein. On aura Scoopy d'un côté, puis l'agenda. Ceux qui veulent rentrer dans Open Agenda, rentrent dans Open Agenda. Mais ça empêcherait ceux qui ne veulent pas y rentrer. Ben vous pouvez très bien publier vos articles sur les sites et on les relie par le Scoopy. Hein, et même faire les deux. Hein, y a pas...
L'idée, c'est de faire circuler l'information.
Voilà. Quoi, voilà.
Et votre information en particulier.
Dans votre esprit, ces différents moyens de présenter de l'information, comme ce lien sur des articles qui sont publiés sur des sites autres, est-ce que vous le considérez comme quelque chose de lié à un territoire, avec des limites sur ce territoire, ou est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez comme national, en l'interfaçant à d'autres ? Parce que les infos, on les publie, par exemple, au-delà de sur notre site, évidemment. Mais après, on les publie aussi sur le site de l'AFA, on les publie sur d'autres sites, déjà. Donc, si on doit les mettre sur le site de l'AFA, sur le site ici, sur le site... ça devient vite compliqué, quoi. Oui. Donc, et puis, quelle est la... Est-ce que c'est une... l'espace Mendès France qui est au cœur de Haute, est-ce que c'est une zone... Est-ce qu'en gros c'est à poil, quoi, enfin le, à Aquitaine, Poitou, Limousin, ou est-ce que c'est au-delà, est-ce qu'il y a des limites territoriales, enfin voilà quoi.
Enfin, dans mon esprit, clairement, notre champ d'action, nous, c'est la nouvelle région. Donc c'est ça. Après.
Nous, on n'y est pas.
Oui. Ah oui, bon, je sais pas. Le. Oui, oui, oui. Après le.
Non. Avec des bordures.
Non, c'est pas au sens strict. Après, par rapport à ce que vous disiez, justement, c'est très bien. C'est, à la fois, c'est bien de publier sur plein de sites, mais c'est aussi le problème parce que dès qu'on a des changements, il faut se souvenir où on a publié et c'est un peu. Nous, on a vraiment ce problème-là. Et le fait d'utiliser ce genre d'outils permet en quelque sorte de jouer l'interopérabilité et les gens qui agrègent vont plutôt chercher l'information sur un espace comment dire, de référence quoi. Voilà. Mais l'idée là est très là, comme je vous le disais, c'est pragmatique, c'est pas de substituer à la FA ou de, oui, donc il faut continuer à publier. Oui, 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 oui,
fois, on les rentre,
oui, bah, bien sûr,
comme ils sont, les forums, la FA seront pas interconnectés.
Non, non. Non, non.
De toute façon, ça en fait un de plus plutôt qu'un de moins.
Non, oui, non, oui, c'est ça. Oui.
En fait, c'est pas un article en plus à créer. L'article existe sur votre site. C'est juste une sorte de d'avertissement comme quoi il y a cette modélisation-là. Et en fait, là, ce n'est pas une publication d'article, c'est un recensement d'articles.
Tu parles, Eric,
de Scoop-It.
Pour Scoop-It. Pour l'autre, c'est vraiment une republication.
Ah, oui,
oui, oui. Oui,
oui,
oui. Oui, oui, oui.
C'est pour ça que les Open Agenda, voilà, bon, à voir. Mais oui. Scoop-It, je trouve vraiment un intérêt parce oui. qu'effectivement, vous changez votre date de manifestation. Si l'adresse de l'article n'a pas changé chez vous, c'est instantané.
Oui.
Il n'y a pas à republier.
Ça me paraît, c'est pas la même chose.
Non, non, c'est pas la même chose.
Voilà, donc j'avais une question ici.
Oui, la question était de dire, Scoop là ou l'autre là, nous on utilise, enfin, beaucoup de gens. Google Agenda.
Oui.
Donc, est-ce qu'il peut y avoir un lien, en fait, entre Scoop-It ou l'autre, celui que vous avez présenté, et le fait de recevoir aussi l'info sur Google Agenda ?
Alors,
c'est-à-dire, parce que les smartphones, les iPhones ou autres, on a tous l'application qui va rechercher sur Google Agenda. Donc, si vous mettez en place ce truc-là qui est autre, OK, mais nous, il faut une application qui aille chercher l'information. Et l'information existe sur Google Agenda, sur les smartphones. Donc est-ce que vous allez mettre, je ne sais pas comment informatiquement, en place un lien à savoir quand Scoop-It va être opérationnel, qu'on pourra le récupérer sur un truc qui va marcher sur notre smartphone, sur notre
Ça concerne vraiment l'agenda pour le coup. Oui. Alors il y a deux, il y a avant... en amont, c'est-à-dire quand vous publiez, vous utilisez parfois Google Agenda, hein, et ça vous permet de l'inclure dans votre site éventuellement. Et, donc, il faudrait faire un pont entre Google Agenda, parce que vous gardez vos habitudes, et Open Agenda. Ça, c'est possible, parce que quand vous publiez sur Google Agenda, vous exportez en fait vos dates dans un format qui s'appelle ICAL, qui est standard. Donc ça, c'est... Voilà. Après, en aval, c'est comment est-ce que les gens peuvent s'abonner eux-mêmes. C'est pas la même chose de publier et de s'abonner aux dates. Et là, pour l'abonnement, c'est trivial, pour le coup, sur un agenda, Open Agenda, vous pouvez simplement ajouter le compte à votre smartphone ou des choses comme ça, il vous amènera les dates dans votre... Donc, c'est... On vous donnera éventuellement le mode d'emploi, mais ça fonctionne. Oui, oui, oui. En fait, c'est voilà.
Oui, on parlait de Google, mais on parlait de Google, mais je pense que Open Agenda est beaucoup plus puissant parce que j'ai vu des belles images, plein de choses sur Google Agenda. Quand on enregistre un événement, bon, on peut pas mettre d'image, on met juste un événement.
Oui, oui, oui. Alors le format ICAL est de base est assez restreint, c'est un standard, mais c'est assez restreint. Effectivement, c'est vraiment fait pour gérer un agenda personnel. Donc là, les images, vous en fichez un peu, avec les systèmes de rendez-vous éventuellement. Et c'est assez limité par rapport aux données culturelles, quoi, d'une façon générale, où il y a les tarifs, où il y a les...
Donc il faut que les infos arrivent sur notre agenda.
Oui, mais ça pour le...
On soit au courant qu'il y ait vidéo...
Oui, mais il suffit de vous... Vous pouvez le faire déjà sur le site, vos agendas perso, par exemple. Moi, là, enfin, je ne vais pas vous montrer, mais ce n'est pas connecté. Mais mon agenda personnel est connecté sur le site Demandes France. Et je peux visualiser sur mon smartphone toutes les dates, éventuellement catégorie par catégorie, etc. Donc ça c'est à partir de tous ces outils-là et beaucoup de blogs... exportent leurs dates dans un format qui vous permet déjà ça. Où ça marche moins bien pour l'instant, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, en fait, pour votre association, vous utilisez un agenda personnel et il faut que votre agenda personnel permette de publier publiquement sur des systèmes comme ça. Et ça, pour l'instant, ça ne marche pas encore très bien. Mais en lecture, ça marche très bien.
En tous les cas, bon, ce qu'on peut faire là... Il y a une question, pardon. Excuse-moi.
Oui, merci. Une petite question. Si j'ai bien compris, là, donc, c'est faire circuler la formation, mais en interne pour les clubs, les clubs d'astronomes amateurs de la région.
C'était plus
de la grande région. Moi, ma question, c'est... ça fait pas longtemps que je suis au club, j'ai eu énormément de mal à le trouver. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la circulation de l'information, mais pour le grand public ?
Dans mon esprit, c'était pour le grand public, là, plutôt. Hein. C'était pour faire connaître l'information.
Oui, parce que, en fait, moi, quand je pensais à des rendez-vous, etc., bon, bien sûr, ça peut être des rendez-vous de personnes... spécialisé en astronomie, mais bien souvent au niveau des clubs, ça va être, on va en parler dans un petit moment, le passage de Mercure devant le Soleil. Donc là, c'est une manifestation qui s'adresse au public. Donc savoir, par exemple, où on peut observer ce phénomène-là. Enfin, où est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont programmés, un peu comme en comparaison avec la nuit des étoiles. Après, effectivement, ça peut être un rassemblement astronomique qui a lieu à tel endroit. Donc là, effectivement, le grand public ne sera pas intéressé par cette annonce-là, mais je pense qu'il faut peut-être fusionner tout ça, et la famille, quand on verra que c'est une manifestation astro avec des choses jusqu'à 23h, minuit, etc., bon, il n'ira pas. Par contre, quelque chose qui sera naturellement visible public, voilà, ils iront. Ou alors, même dans l'article, ça peut être mentionné. Je ne sais pas si je m'exprime bien à cette heure-ci, mais... voilà, donc il y a les deux. Et après, ce que je proposais, c'est de toute façon, nous, les deux plateformes sont à peu près en place. C'est pourquoi pas les lancer et puis après attester, ouais. Et voir ce qui marche à peu près, ce qui marche pas. Suivant, mais on peut toujours garder en fait en parallèle les deux systèmes.
Hein, non, là, ce dont on parle, c'est des sites et des services, enfin des services. La notion de service public, c'est autre chose, mais ce sont des services ouverts au public. Gratuits, etc. Donc en fait, là, je vous montre mon agenda personnel. Enfin. Et en fait, là, en vert, c'est l'information Mendes France que je reçois sur mon agenda personnel, sans aller sur le site. Donc ça, c'est très facile à faire, en fait. Alors là, c'est Gmail à la source Mendes France, mais si vous avez Outlook, ça fonctionne aussi, hein, ou autre. Voilà.
Bien. Donc... Là, avec Thierry, donc on va essayer de lancer donc les deux. Je vous renvoie des messages par rapport voilà comment ça se passe. Si certains veulent avoir des compléments d'information pour se former à comment on identifie les sites, on essaiera de le faire. Et puis dans quelques temps, on essaiera de voir ce qui vous convient le mieux et ce qui est peut-être le plus intéressant. D'accord ? Parce que là, il faudrait presque passer à la suite. Non mais je vois qu'il est 6h05. Le soleil, parce que justement on l'a pas vu. Je sais pas, mais on va essayer de découvrir le soleil en radio. Le soleil dehors. Ah. Donc je sais pas du coup. Enfin, il faut faire le radio. Ou alors, on laisse le choix... ben non, les astronomes ne sont pas en place dehors. Bah oui. Donc on va peut-être rester sur le programme Observation Soleil Radio. Et puis, si certains ont des instruments qu'ils veulent mettre en place dehors, enfin, on peut séparer la salle aussi. Enfin, hein, faites. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'après 19h, faut. Là, donc l'idée, c'est en fait une présentation, comment on peut observer le soleil en ondes radio et puis d'autres objets. Après, c'était le système solaire au niveau de la maquette. C'est 5 minutes, voilà. Et puis reprendre le programme de la journée avec une petite présentation du passage de Mercure devant le soleil et les exoplanètes. Ben faire les deux. Voilà, s'il y a un solarscope, on peut observer rapidement le solarscope. Mais vérifiez d'abord s'il y a une éclaircie vraiment. Mais après, voilà, c'est pour ça que là, je voulais donner une priorité quand même sur la radio. Parce que, bon, c'est pas forcément très répandu. Mais après, si certains éventuellement veulent observer le soleil dehors, ben voilà, allez-y. Et ceux qui veulent rester là pour écouter la radio, ben voilà. Enfin, écouter la radio, entre guillemets. D'accord ? Donc, merci Jean-Charles donc, de faire cette présentation. Donc, tu appartiens au club de Saint-Benoît.
Voilà, comme c'est marqué. Donc, bonsoir à tous. Donc, Jean-Charles Le Tarnec. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de radioastronomie, alors sur le soleil et puis sur autre chose aussi. Je vais faire très court parce qu'on m'a demandé de faire très court et qu'on est déjà bien en retard. Donc, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à venir m'en parler après parce que là, je vais faire que survoler le phénomène. Et quand je dis radioastronomie, je parle bien sûr de la radioastronomie amateur que vous pouvez tous faire, ou presque. Donc l'observation du soleil visuel et radio, donc visuel, ben, vous avez vu qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de chance. Sinon, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Donc au niveau visuel, vous connaissez les choses habituelles, que ce soit au télescope avec filtre, à la lunette Coronado ou avec d'autres instruments. Donc là, je passe rapidement, je vous parle surtout de la partie radio. Alors, la partie radio, elle pose toujours problème, puisqu'au niveau de l'amateur, quand on parle radioastronomie, on imagine ça, et on se dit, j'ai pas grand-chose à faire là-dedans, je vais retourner à mes images. Donc, quelle place pour l'amateur, c'est la question. Alors, nous sommes tous ici astronomes amateurs, je pense. Donc, si on reprend vraiment l'étymologie, ça veut dire amateur, on aime l'astronomie. Ça ne prédispose pas de notre niveau. Ça veut juste dire qu'on aime l'astronomie, quel que soit notre niveau. Pourquoi venir à la radio ? Bah, pour plusieurs raisons possibles. On est amateur, donc en général, on a vu des belles images. C'est joli, c'est très joli, j'adore ça. Et puis, il y a des fois où on n'a pas d'image et où on a quand même envie de comprendre. Donc en radioastronomie, on ne va pas forcément faire d'images. C'est possible, mais ça donne des images de pas très bonne qualité. C'est pas très agréable. Mais on va récupérer de l'information qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe derrière. Et ça, c'est aussi intéressant, même si on ne fait pas d'images. Et pourquoi faire de la radioastronomie ? Eh bien, parce que si vous êtes comme moi, que vous en avez très très marre de l'hiver, où vous n'avez pas pu observer depuis à peu près 4 mois, vous vous dites, bah, je peux peut-être faire autre chose en attendant. Autre chose, moi je suis également radioamateur, donc toujours dans le sens officiel des choses, c'est-à-dire que bah, tout ce qui concerne la radio, ça m'intéresse. Alors radioamateur, c'est pas si bis, ça n'a rien à voir. Hein. En France, les radioamateurs, personne ne sait ce que c'est un peu dommage. Un radioamateur, c'est quelqu'un qui a passé une licence internationale, reconnue de façon internationale, qui tous les ans paye une taxe pour pouvoir utiliser du matériel radio et qui s'intéresse vraiment à tous les phénomènes radio. Et puis c'est aussi une passerelle de se dire, bah, j'aime la radio, j'aime l'astronomie, est-ce que je ne peux pas faire les deux en même temps ? Alors, il y a plein de phénomènes qui se passent au-dessus de nos têtes, et je remonte souvent des graphiques de ce type-là, parce que très souvent, on a du mal à reclasser un petit peu les choses, ce qui se passe au-dessus de nos têtes, en fonction des altitudes. Et tout ce qui va concerner les ondes radio vont concerner soit des ondes radio que nous, on émet sur Terre et qui vont aller vers l'espace, qui vont parfois rebondir à certaines hauteurs vers la Terre, et aussi les ondes radio qui viennent de l'espace, qui vont traverser l'atmosphère, qui vont interagir avec des tas de choses et que nous, on va recevoir plus ou moins sur Terre. Donc là, il y a plein de phénomènes très, très intéressants qui se passent, que je ne vais pas vous expliquer du tout parce que je n'ai absolument pas le temps, mais ils sont très nombreux. Alors au niveau radio, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, on peut écouter des tas de choses. Écouter ce qui se passe dans les avions, ça c'est très facile à faire. On peut s'amuser à recevoir les données des ballons sondes de Météo France. Tous les jours, Météo France envoie des tas de ballons sondes dans l'atmosphère. Les données, il est très facile de les écouter, de les décoder et de voir ce que les ballons sondes font. C'est très marrant. On peut écouter certaines conversations à bord de la navette spatiale, plus maintenant, puisqu'il n'y a plus de navette spatiale. Mais il faut quand même savoir une petite chose. Maintenant, ISS, avant Mir, toutes les stations spatiales envoyées dans l'espace ont toutes eu à bord une station radio amateur, avec des fréquences qui sont uniquement réservées aux radios amateurs et faites uniquement pour que les radios amateurs puissent échanger, soit par la voix, soit par d'autres moyens, avec les astronautes, cosmonautes, spationautes, etc. Moi, j'ai réussi à contacter Mir à l'époque avec un petit poste qu'on tient à la main et 5 watts de puissance. J'ai d'autres collègues dans cette salle qui ont fait des contacts avec Mir aussi. C'est très facile à faire. Alors, il n'y en a pas souvent parce qu'ils ont autre chose à faire que de discuter avec nous. Mais quand vous entendez Claudie Aigneret en direct de l'espace et que vous l'entendez, que vous savez que ça passe à 350 km au-dessus de votre tête, c'est toujours marrant. C'est pas encore de la radioastronomie, mais ça vient de l'espace. Ensuite, vous avez tous les phénomènes naturels. Alors, tout ce qui est orage, phénomène naturel, provoque des ondes électromagnétiques qu'on peut écouter, qu'on peut étudier. Il y a beaucoup de choses à en tirer, mais je vais passer rapidement dessus. Ensuite, alors je passe rapidement, je vais reprendre les météorites. Donc, vous avez vu tout à l'heure, on vous a parlé du réseau Fripon. On vous a dit aussi que le visuel, c'était très bien, qu'à certains endroits, on mettait des antennes. Vous avez vu l'antenne tout à l'heure, donc c'était une IAGI 5 éléments pour votre information, mais on peut faire avec n'importe quel type d'antenne, même une antenne de récupération, parce que moi, je fais en grand public de la détection des météores radio avec une antenne de récupération que je n'ai absolument pas payée. C'est simple à faire, ça fait du bruit parce qu'on rend audibles les météorites, et en plus, on peut les voir sur un écran avec des logiciels entièrement gratuits. Ça demande juste un poste récepteur. On peut en trouver à pas cher. Alors, le mien, je vous avoue, comme il me sert à beaucoup d'autres choses, il est de très haute qualité et il a un certain prix. Mais avec des postes à moins de 100 €, vous pouvez faire des choses fabuleuses au niveau de la détection des météorites. Et puis, vous avez des tas de choses. Il y a des satellites. Il y a aussi des satellites qui sont réservés aux radioamateurs, envoyés par des radioamateurs avec lesquels on peut faire des choses. Enfin, l'espace est rempli de signaux radio. Alors, je vous prends quelques exemples. La NASA s'intéresse beaucoup à ces jeunes et prévoit souvent des programmes intéressants. Et il y a un programme qui s'appelle Radio Jove, qui existe depuis un certain nombre d'années, organisé par la NASA au début, dont le but était de faire de la radioastronomie en écoutant Jupiter, puisque vous avez le couple Jupiter et Io, son plus proche satellite, qui provoque des phénomènes radio à certains moments donnés très précis. Et ces phénomènes radio, on peut les écouter sur Terre. Alors si vous êtes comme moi et que des fois vous vous dites « j'aimerais bien faire, mais j'ai pas envie d'être tout seul. Après tout, si on était plusieurs, ça serait marrant. » Eh bien, vous pouvez faire ce que j'ai fait il y a quelques années. C'est-à-dire, vous contactez un professeur d'une classe de physique que vous connaissez pas. Vous lui dites « voilà, j'aimerais bien faire des choses avec vous. Est-ce que vous avez des élèves qui ont envie de faire quelque chose ?» Là, il vous met à disposition 3-4 élèves. Moi, j'en ai eu 4. Deux élèves qui étaient en terminale, un élève en première et un élève en seconde. Et là, vous leur dites, eh bien, écoutez, on va écouter Jupiter. Vous allez monter une antenne, vous allez la créer, et vous allez écouter Jupiter. Alors, il faut les aider un petit peu, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut faire quelques calculs pour eux. Mais ça donne une belle histoire. Ça donne des documents que vous pourrez récupérer sur Internet, qui est leur rapport de stage. Si vous tapez « Surfer sur Jupiter », vous allez avoir l'ensemble des choses. Et puis, ce que je n'avais pas mesuré, mais qui est tout à fait intéressant, c'est que ça permet aussi, par exemple, de participer aux Olympiades de physique et d'en sortir avec un premier prix. Et ça permet aussi, parce que tous les ans, l'Académie des sciences en France donne un prix à un groupe de jeunes pour ce qu'ils ont fait dans l'année, ça permet aussi d'avoir un premier prix à l'Académie des sciences et d'être accepté à l'Académie de sciences alors que vous êtes en terminale, première ou seconde, ce qui n'est pas dénué d'intérêt. Ça donne des signaux sonores. très sympathiques qui ressemblent à des bruits de vagues. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous le dis, vous pouvez calculer pratiquement à la minute près à quel moment vous allez les entendre et à quel moment ça va se finir. Donc le fonctionnement, très très rapidement, Jupiter et Io, en fait, vous savez, Io est le seul satellite de notre système solaire qui est très très volcanique avec une activité intense parce qu'il est dans le champ magnétique de Jupiter. Et il y a des échanges magnétiques, des échanges de flux importants entre Io et Jupiter. Et ça crée des tas de fréquences qui, quand elles sont dirigées vers la Terre, peuvent être récupérées pour nous au sol. Alors Jupiter n'est pas la seule planète à faire ça. Saturne également produit des ondes sonores qu'on a découvertes avec la sonde Cassini il y a quelques années. Malheureusement, les fréquences émises par Saturne ne traversent pas notre couche d'atmosphère, donc on ne peut pas les écouter sur Terre. Donc ça limite un petit peu à ce niveau-là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien, on parlait du Soleil, donc on va revenir sur le Soleil. Donc le Soleil émet, comme vous le savez, des tas de choses dans l'espace, des protons, des neutrons, des électrons en direction de la Terre et constitue donc le vent solaire. Et ce vent solaire, grâce au champ magnétique terrestre, évidemment, est dévié, mais produit des effets sur Terre qu'on peut mesurer. Alors qu'est-ce qu'on va faire en radioastronomie solaire ? Eh bien, on va mesurer des choses et pour voir si on est correct, on va comparer ça par rapport à des données officielles. Alors les Américains ont en permanence autour de la Terre, enfin surtout au-dessus du territoire américain, deux satellites du système GOES, pour Geostationary Observatory, je ne sais plus pour le E et le S, enfin le S c'est pour satellite. Et le but c'est de mesurer en permanence au-dessus du territoire américain les rayons X, les protons, les électrons, il y a un magnétomètre et en plus ils ont de quoi imager. Pourquoi ? Parce que vous devez le savoir, le Soleil ça nous permet de vivre, c'est très bien. Mais certains éléments qui peuvent arriver sur Terre suite à des éruptions solaires peuvent être dangereuses au niveau des pipelines, au niveau des câbles électriques, etc. Donc il y a un intérêt réel à voir ce que le Soleil fait. Et ben, on va essayer de faire la même chose au niveau amateur. Donc en particulier, on va s'intéresser aux rayons X solaires. Donc le Soleil émet des tas de choses, et il y a une partie des rayons X qui, quand ils atteignent notre ionosphère, vont modifier la composition de notre ionosphère, et ça, on va pouvoir le mettre en évidence. On va utiliser pour ça des émetteurs terrestres, qui en général envoient des émissions vers le ciel, et ces émissions, elles passent sans problème la ionosphère, elles sont entre guillemets perdues dans l'espace. Donc si vous essayez de les écouter sur Terre plus loin, vous ne les entendez pas, parce qu'elles sont envoyées vers le haut. Et quand vous avez des éruptions solaires, quelques jours après, vous avez des rayons X solaires qui arrivent dans la ionosphère, qui vont, comme son nom le dit, ioniser la ionosphère, et la transformer donc en miroir pour certaines ondes et les réfléchir vers la Terre. Et donc quand on reçoit ces ondes, on peut mettre en évidence donc que notre ionosphère a été excitée, et elle a été par des rayons X solaires. Alors, heureusement, les Américains, avec leurs satellites, mettent des données à disposition quasiment en temps réel sur Internet. Donc vous pouvez tous, si vous tapez GOES au niveau de la NOAA, N-O-A-A, la National Oceanographic and Atmospheric Administration, avoir ces graphiques où vous voyez qu'en permanence, vous avez deux satellites GOES dans deux bandes de fréquences différentes de rayons X, et là, vous avez l'activité des rayons X solaires, qui est cotée sur cette échelle en A, B, C. Bon, AB, c'est courant, C, des petites éruptions solaires, M et X, ça commence à être des éruptions solaires qui font des effets non négligeables. Donc est-ce qu'on va réussir à avoir les mêmes informations ? Alors, autre instrument qu'on peut utiliser, la NASA toujours, il suffit de s'abonner sur Internet, ça ne coûte rien, met à disposition trois types de rapports très intéressants sur le Soleil. Le premier, c'est le SRS, qui nous donne les numéros de chaque tâche solaire en activité, avec les coordonnées précises sur le Soleil, comme ça, si vous imagez le Soleil dans le visible, vous savez exactement de quelle tâche il s'agit, et donne des tas de choses intéressantes sur les émissions de la tâche solaire en question. Donc, vous regardez dans votre instrument optique le Soleil, vous voyez des tâches, vous regardez le numéro de la tâche tel qu'il a été attribué, et vous savez quel type d'émission le Soleil émet à ce moment-là. Alors, je sais, c'est un peu imbuvable, il faut savoir lire. Deuxième rapport, il y en a trois, deuxième rapport que vous pouvez obtenir, c'est l'activité solaire détaillée, avec, pour les numéros de tâches dont je vous ai parlé juste avant, que vous trouvez ici, le début, le moment du pic maximum et la fin de l'événement d'émission et la classe qui correspond à l'échelle que vous aviez tout à l'heure. Je vous rassure, il ne faut pas connaître ça par cœur. Hein. Et puis, troisième rapport, eh bien, une fois que les rayons X solaires et le reste arrivent sur la Terre, eh bien, la Terre réagit, entre guillemets, avec son champ magnétique et produit certains événements. Je vais passer rapidement dessus parce que le temps passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser des matériels pour écouter un petit peu l'action de ces ondes sur Terre. Donc, vous pouvez acheter directement à la NASA des récepteurs de ce type. Alors, ils sont en kit, hein, faut les monter soi-même, qui permettent d'écouter certains bruits. Bon, là, je ne vous les ferai pas écouter, parce qu'il faut vraiment être dans un milieu dégagé de toute activité électromagnétique pour entendre ces belles choses. Donc là, ce n'est même pas la peine. Bon, vous avez d'autres récepteurs ici en photo, ça se trouve facilement. Vous pouvez utiliser des magnétomètres terrestres pour voir l'activité, la relation avec la Terre, mais je vais passer rapidement aussi. Et vous pouvez vous équiper de matériel qui ressemble à ça. Donc ça, c'est du matériel que vous trouvez... Alors, du matériel qui est vendu par Lucky RAA. C'est une association de radio-astronomes anglais qui peut être vendu fini ou en kit, donc vous pouvez le monter vous-même. Alors, il y a l'antenne, évidemment, mais il y a également le récepteur qui va avec. Et puis, vous branchez ça à un ordinateur. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Eh bien, on va mesurer l'activité solaire et obtenir un graphique de ce type-là. Donc, tout ce qui est en violet, c'est la nuit. Donc vous voyez que la nuit, vous avez une espèce de signal qui est assez élevé, qui reflète donc l'activité de notre ionosphère. Quand le soleil se lève, il y a toujours un pic ici, puis un creux ici. Et puis une petite bosse après. Et puis tout le long de la journée, quand le soleil est là, vous allez avoir ceci. Jusqu'au soir, où le soleil se couche, de nouveau un creux, et la nuit, le soleil remonte. Ça, c'est une journée normale sans éruption solaire. Et ça, c'est exactement les courbes que je vais obtenir avec ça. Alors celle-là, ce n'est pas la mienne, mais je vais vous montrer la mienne après. Quand vous avez des éruptions solaires, vous obtenez la même chose, sauf qu'en plus, vous avez des pics qui apparaissent. Et la question, c'est de remettre ces pics par rapport aux données qui nous viennent des satellites. Alors ça, c'est mes données. Voilà ce qui se passe. Ici, c'est ce que j'ai mesuré. Alors, il y a déjà quelques années, j'ai repris le même, mais c'est pas grave. Vous avez la nuit qui est là-haut, vous avez le jour qui se lève. Là, vous avez un creux parce que l'émetteur que j'utilise est un émetteur de l'OTAN qui sert au sous-marin nucléaire, dont j'ai rien à faire au niveau du message, mais qui fonctionne là et qui a une heure de pause tous les jours. C'est très intéressant parce que ça permet de mettre une ligne de base sur le signal. Et puis après, vous voyez, j'ai une journée normale et puis là, un pic. Et ce pic-là correspond en fait au pic ici, mesuré par les satellites. Donc avec ce matériel-là, chez moi, en permanence, je peux mesurer exactement ce que mesurent les satellites GOES autour de la Terre, et je peux, avec les données que je vous ai montrées précédemment, savoir en temps réel quelle est la tâche sur le Soleil qui m'envoie les informations que je suis en train de voir. Alors si vous regardez le rapport dont je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-là. C'est-à-dire que ce jour-là, le signal a commencé à 10h29, maximum 11h01, fin 11h44. C'était la région 1302 du Soleil, qui était 13 degrés nord, 78 degrés est par rapport aux coordonnées solaires. Et c'était un événement de type X14. C'est donc dans la ligne X, là-haut, le signal rouge, un signal de type X14. Alors ce ne sont pas des images, ce sont des données. Mais moi, je trouve toujours ça très excitant d'avoir en direct, finalement, des informations aussi importantes que ça sur l'activité de notre Soleil. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que j'ai pas plus de temps. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et si vous voulez regarder un petit peu, j'ai imprimé quelques documents. Si vous êtes intéressé un petit peu par la radioastronomie, n'hésitez pas à venir voir ça après.
Merci beaucoup. Alors, ces documents, ils sont libres parce que si ça peut exister en PDF, on peut peut-être le relayer après.
Le rapport, là, il se trouve sur Internet. Hein, il suffit de taper sur Fait sur Jupiter. C'est un rapport qui fait 18 pages. C'est un rapport préliminaire. C'est des expérimentations qui ont été faites avec certains détails, certaines photos. Il y a un deuxième rapport qui existe, mais qui n'est pas sur Internet. Mais ça, ça se trouve facilement. Ou on peut le mettre en PDF sur le site. Il n'y a pas de problème.
Parce que là, en réfléchissant, je pense qu'on essaiera de faire une petite page sur notre site, un petit résumé de ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est enregistré, sauf la séance au planétarium. Et donc, mettre aussi les liens, donc des structures, les liens des documents, et puis d'autres choses que vous voudriez faire paraître qui concernent la journée. Et on pourrait faire comme ça une page. Donc, entre aujourd'hui et dans 15 jours.
Voilà. Autre document que j'avais préparé. Alors ça, c'est le site d'une personne privée. Hein. Mais à l'intérieur, vous avez, en ce qui concerne la détection des météores, une analyse très très fine de ce que vous entendez en fonction de à quoi ressemble votre signal. Donc là, il suffit d'utiliser un petit logiciel gratuit. Hein. Et vous avez vraiment une description très très détaillée. Alors ça monte très haut, hein, mais si jamais vous avez envie de voir un petit peu ce que c'est, ça donne des informations très importantes sur ce qui se passe réellement au-dessus de nos têtes. Et puis vous avez d'autres rapports. Bon, ça c'est un rapport quelconque.
D'accord.
Il y en a des quantités. N'hésitez pas à les regarder sur Internet. La radioastronomie au niveau amateur, ça peut se faire. Même avec des clés pour se voir la télé sur votre ordinateur qui coûte une vingtaine d'euros, si vous mettez la bonne antenne au bout, vous pouvez faire de la radioastronomie. Donc si vous récupérez une antenne gratuite que vous dépensez 20 euros, vous pouvez essayer la radioastronomie.
Parfait. Y a-t-il des compléments à demander ? Voilà, mais bravo encore. Alors, on va maintenant présenter donc l'astre qui me réchauffe depuis, depuis cet après-midi ou même ce matin. Donc, c'est une réalisation d'une maquette du système solaire à l'échelle. Les documents... Ils sont là, je vais les faire distribuer. On va vous distribuer donc un document papier qui est fait qui représente cette représentation, cette maquette. Voilà. Donc je sais aussi que d'autres clubs ont fait des représentations, donc c'est un exemple. Hein. Donc je laisse la parole à Observatoire et à Monsieur Poudré.
Merci. Bonsoir. Nous sommes 10 personnes à venir de Thouars, 10 personnes qui sont des membres d'un atelier d'un centre socioculturel qui s'appelle l'Observatoire. Nous sommes pour la plupart des seniors, mais nous sommes jeunes par la date de création de l'atelier. Il y a 3 ans à peu près que nous existons. Et pour le moment, nous intervenons à un niveau primaire. Nous avons l'un des membres à fabriquer des maquettes du soleil avec un disque d'un mètre de diamètre. Et il en a profité pour tourner avec son tour à bois les maquettes des planètes du système solaire. Voilà. Et puis un petit détail, il y a un autre atelier du centre socioculturel qui fait de l'aquarelle et qui a bien voulu décorer ses maquettes. Alors, bien entendu, une fois fait le choix du diamètre du soleil, enfin la maquette du soleil d'un mètre, toutes les autres maquettes se trouvent... correspondent au niveau de l'échelle. Et donc, par conséquent, vous avez des planètes qui semblent ridiculement petites pour certaines, en particulier pour Mercure. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, pour ceux qui sont prêts, là, au premier rang, la taille de la planète Mercure, enfin, de la maquette de la planète Mercure. Voilà, quand elle passera le 9 mètres devant le soleil, on verra peut-être un petit point. Voilà. Pour que les choses soient un petit peu plus pédagogiques, disons, nous on essaie d'œuvrer dans ce domaine-là, nous utilisons donc, là on veut aussi l'espace et puis les positions héliocentriques qui nous sont données, mais Monsieur Chappelle m'a dit qu'il y avait un site qui permettait de les avoir jour par jour.
Après, il y a plein de façons de les obtenir. Donc, il y a des sites, on va dire, officiels comme l'IMCCE. l'Institut de calcul des éphémérides. Donc on rentre une date, on peut l'avoir, mais il y a aussi des logiciels. Alors le logiciel à lequel je pensais est un logiciel qui existe sous Linux. Je ne sais pas s'il y a une version Windows, il s'appelle Castar, mais après il y en a certainement plein d'autres. Et en fait, on rentre une date et on a instantanément donc les positions héliocentriques avec les valeurs des angles. Donc il y a des façons de retrouver ça. Donc là aussi, j'essaie de faire une petite liste qui sera loin d'être exhaustive, hein, mais on peut retrouver parce que bon, si l'espace est très bien, mais c'est vrai que voilà, on a au mois actuel. Si on veut remonter dans le passé,
oui, c'est délicat.
Voilà, faut retrouver le bon numéro, etc. Ça peut être compliqué.
Il y a une faiblesse dans la batterie. Alors, pour que ce soit un petit peu plus parlant, on a l'habitude dans les écoles où on va de disposer sur une carte ou, comme ici avec Google Maps. Ces différentes planètes et le Soleil dans le cadre du Lion se trouve. Donc il y a le Soleil. Alors vous ne voyez peut-être pas très bien ici, mais vous verrez mieux sur le document qu'on vous a distribué, j'espère, les planètes telluriques disposées autour du Soleil. Donc le périmètre n'est pas très grand là, mais néanmoins, il y a quand même de l'espace. Il faut penser que le Soleil fait 1 mètre et puis les autres planètes sont nettement plus petites. Et puis, quand on s'intéresse aux planètes gazeuses, là, on s'éloigne très nettement de l'espace Mendès-France, puisque avec la planète Neptune, la plus loin, on atteint 3 km, plus de 3 km. Voilà. Bah, c'est tout ce que je vais dire, je pense. Hein ?
Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est une idée. Alors, je sais, par exemple, à Charroux, il y a un système de parcours de randonnée où il y a une représentation comme ça du système solaire.
Malheureusement, il a été vandalisé.
D'accord.
C'est dommage parce qu'il y avait un travail qui avait été fait avec le collège, avec le lycée, et qui avait été vandalisé. Donc. Au collège de Charroux, où j'ai essayé d'animer un petit atelier d'astronomie dans les temps réservés aux ateliers pour les gamins, mais j'ai un peu abandonné parce que j'étais un peu déçue par l'intérêt qui était porté à la fois par les élèves et par la population à ce que j'avais essayé et voulu créer, c'est-à-dire faire comme un collègue qui avait fait une association. Bon, ça n'a pas marché. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, on avait installé sur un chemin de randonnée un parcours du système solaire à l'échelle d'un soleil d'un mètre. Et on avait installé ça. La municipalité nous avait aidés. Le conseil général nous avait donné des sous. C'était bien. On était tout contents. Et dans l'été, ça a été vandalisé. Alors, bon, écoutez, on s'en est aperçu, nous, un peu tard, parce que malheureusement, moi, j'habite pas à côté, donc j'ai pas pu le voir tout de suite. Les copains qui s'en occupaient, pareil, et on a abandonné jusque pour le moment. Bon, peut-être que si on se retrouve à plusieurs, on va recommencer, je veux bien, avec l'aide d'Éric, qui nous avait bien aidés à l'époque.
Malheureusement pour cette mauvaise nouvelle, enfin, je ne savais pas qu'il a été vandalisé. Après, il existe un autre chemin de randonnée que j'avais fait à Bouilly-Saint-Paul, c'est nord de Sèvres. C'est, voilà. Mais après, il y en a certainement plein d'autres. Voilà.
Oui, c'est pour dire qu'on en a un également qui fait 14, qui est au milliardième, hein, c'est ça, donc qui fait jusqu'à Neptune, donc qui fait 14, jusqu'à Pluton, donc qui fait c'est, combien ? 6,5, moi j'ai jamais été jusqu'au bout, donc voilà. Donc, et il est a priori pas enfin respecté, et il a une deuxième partie qui est le ciel profond, voilà. Mais bon, pour le moment en tout cas, mais là il y a pas d'échelle, donc pour le moment.
C'est un univers d'un kilomètre. Voilà. Sur le chemin de randonnée de Saint-Martin.
Donc il y a deux. Voilà. D'accord. Oui, il y en a aussi donc à Valdivienne. Voilà, donc là aussi, peut-être on pourrait faire une sorte de recensement des systèmes solaires à échelle. Alors, plus ou moins respecté, parce que bon, des fois, c'est vrai que on veut respecter les distances, l'échelle de taille, du coup, ça colle pas toujours, mais faut être, voilà. Il y en a qui sont très très bien, il y en a d'autres, voilà, on triche un petit peu. Le tout, c'est de le dire des fois au début, à l'entrée. Hein.
Ce parcours, là, se situe à 25 km au sud de Tours.
Oui. D'accord.
Mais
effectivement, par rapport au retour de la journée, on essaiera de recenser qui a fait des systèmes solaires comme ça à échelle. Bien, on va continuer. Oui ? Non ? On va continuer, il n'y a rien. Passage de Mercure devant le Soleil. Donc, qui avait prévu ça ? J'ai perdu le prénom, Michel.
Christian
Lerme. Voilà, donc du club Pierre Bourges à côté d'Angoulême à Fléac. Oh, il y a un adaptateur qui a été oublié. Peut-être attirer ça.
Oui, ton collègue, ça.
Oui, j'espère que c'est. Parce qu'Olivier était. Bien sûr, bien sûr.
USB ou...
Oui, tu branches un pied.
Bon, en attendant... Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christian Lerme, je fais partie du club d'astronomie Agnès et Pierre Bourges à Fléac. Nous sommes une section d'une MJC, c'est une petite section d'astronomie. Et nous avons décidé donc de participer ici. Vous avez en face de vous un amateur pur jus. Hein. J'ai plutôt l'habitude de m'adresser à des enfants de primaire et à des gens qui découvrent l'astronomie plutôt qu'à des amateurs éclairés. Donc j'ai préparé ça dans l'optique que je pensais que c'était pour des gens qui découvraient l'astronomie. Donc transit de Mercure. Le lundi 9 mai, je pense que vous avez tous ce qui va se passer ce jour-là, va se produire un transit de Mercure. Donc un transit astronomique est un phénomène qui se produit donc lorsqu'un objet céleste s'intercale entre un observateur et un autre objet céleste, le premier objet paraissant se déplacer devant le second. Cela nécessite que les trois objets soient alignés. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Donc, la petite vidéo que j'ai téléchargée vous montre le transit de Vénus de... ...2012. Donc là, ce sont des images qui viennent du satellite de la NASA SDO. Donc il faut savoir quand même que, en ce qui concerne Vénus, les transits sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus impressionnants que ce qu'on va voir donc le 9 mai. Donc vous avez des images dans les différentes longueurs d'onde. Voilà. Donc on retrouve les mêmes phénomènes que lorsqu'il y a des éclipses. Donc les contacts. Donc, là, au moment où le troisième contact, top, quatrième contact, et ici le premier et le deuxième, hein, au moment de l'entrée de la planète devant le Soleil. Donc, on ne va pas aller plus loin. De toute façon, après, c'est des images qui sont répétitives. Donc, en fonction de la taille de la planète qui passe devant le Soleil, on peut avoir différentes sortes de transits. Et on en a eu de beaux exemples ce matin avec la Lune et le Soleil. Donc, je vais vous montrer quand même les... Donc, dans certaines conditions sont remplies, comme quand le disque, les diamètres apparents de l'étoile qui est derrière et de la planète qui est entre les deux sont à peu près identiques. On a donc des éclipses totales. Hein, vous en avez eu de beaux exemples ce matin. Voilà. Ou alors, quand le disque noir, là, pour la Lune, est légèrement inférieur, on a des éclipses donc annulaires. Bon. Voilà. Bon, tout ça, ce sont des images qui viennent pas de moi, c'est des images que j'ai récupérées sur Internet. Mais on peut aussi trouver des transits qu'on a eu la chance de pouvoir voir hier soir entre une planète comme Jupiter et ses satellites. Allez. Donc voilà, Io devant Jupiter, qu'on a pu observer hier soir. On a eu la chance que le ciel veuille bien se dégager. Voilà, et là on a des plusieurs. Donc vous avez Callisto là, avec son ombre ici, et Io. Et on peut remarquer, hein, puisque les heures sont différentes, que tout ça s'est déplacé. En particulier que Io, qui est plus proche que Callisto, s'est déplacé plus vite que celui-ci. Donc, les transits de Mercure. On peut rappeler que le diamètre du Soleil est à 1 400 000 km. Le diamètre de Mercure ne fait que 4 880 km. Du fait de sa proximité avec le Soleil, ils sont plus fréquents que ceux de Vénus. On en compte à peu près 13 fois par siècle. Soit en mai, tous les 13 et 33 ans, avec un diamètre angulaire de 12 secondes d'arc, parce qu'à ce moment-là, il se produit au moment où il est le plus proche, où la planète de Mercure est plus proche de la Terre. Donc, le petit point sera un peu plus brillant, un peu plus visible que ceux qui se passent en novembre. Donc, en mai, tous les 13 ou 33 ans, et en novembre, tous les 7, 13 et 33 ans, avec un diamètre angulaire de 10 secondes d'arc. Les transits les plus récents ont eu lieu le 7 mai 2003 et le 8-11 2006. Les prochains sont donc le 9 mai et après, ça sera en 2019, le 11 novembre. Et pour en voir un entièrement, je crois qu'il faudra aller jusqu'en 2039. Il est intégralement visible en Europe et chez nous, il va commencer donc à 13h12, heure locale, jusqu'à 20h42. Donc, comment nous avons envisagé avec le club de faire nous une observation publique. Donc, on va faire paraître une annonce dans la presse et puis inviter les gens à venir voir ce qui se passe. Donc, comment observer sans danger? Bon, vous connaissez tous les risques. Donc, c'est les filtres Millard, les filtres à l'ouverture. Ce qu'il ne faut pas faire, bon, c'est tout ce qu'on entend souvent, les verres passés à la bougie, superposer les lunettes de soleil, les radios, ainsi de suite. Donc, à quoi servent aussi les transits? C'est une des méthodes qui permet de rechercher les planètes extrasolaires du fait de la variation de luminosité de l'étoile qu'elle provoque quand la planète passe devant. Donc, une méthode photométrique qui repose sur une mesure des faibles variations périodiques de la luminosité d'une étoile lorsque la planète passe devant elle. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? Donc voilà, on a la courbe de luminosité ici. Et au moment où la planète passe devant l'étoile, donc la courbe chute. Ouais. D'accord ? Et si vous avez plusieurs types de variations de luminosité, on constate que la courbe est fonction de et la taille de l'étoile et la taille de la planète. Donc la courbe varie à ce moment-là. Alors, quelles informations obtenues par les astronomes ? Donc, ils arrivent à déterminer l'orbite de la planète, sa masse, le diamètre, la densité, également la composition chimique et la température de l'atmosphère. Les inconvénients, l'exoplanète doit être suffisamment grosse pour pouvoir provoquer une chute de variation significative. Hein ? Pouvoir différencier également les variations de luminosité propres à l'activité de l'étoile. Le transit doit se reporter un grand nombre de fois pour pouvoir valider les résultats. Et le détecteur doit se situer dans l'espace pour éviter toutes les perturbations atmosphériques. Et aussi, il faut aussi bien l'observateur que l'étoile et la planète soit alignée, ce qui est relativement rare quand même dans l'espace. Donc voilà ce que j'avais préparé pour vous présenter.
Donc là aussi. Donc on va voir si on peut référencer ça aujourd'hui ou dans les jours à venir par échange de mails. L'idée serait intéressante de savoir en fait quel club propose des observations où et enfin je vais dire à quelle heure, ce sera entre 13h et 18h et quelques, de façon à faire une sorte de petite carte régionale, mais région à mon sens, c'est-à-dire que c'est le Poitou-Charentes, l'Indre, l'Indre-et-Loire, enfin la zone on va dire limitrophe de la Vienne en cherchant loin. Voilà, sachant que c'est un lundi. Après, il faudra faire attention au niveau de la communication parce que c'est comme pour une éclipse, c'est observer le soleil, donc avec tous les dangers. Observer avec les lunettes, si c'est l'éclipse, ça ne donnera rien parce que le point sera trop petit pour être visible avec la perception de nos yeux. Donc, il faut absolument utiliser un instrument. Et donc là, avec tous les dangers, il faut vraiment que l'instrument soit équipé de filtres. Hein, donc, il faudra faire très attention à ce niveau-là. Voilà. Alors, éventuellement, avec une transition, parce qu'on parlait de transit d'exoplanètes, ça nous amène donc à la détection d'exoplanètes. La première exoplanète, c'était il y a 21 ans, donc découverte par une méthode de transit de vitesse radiale. Et puis, avec cette méthode de transit qui s'est énormément développée avec Kepler, je crois qu'officiellement, là, il en a découvert à peu près 2000, mais il y en a à peu près autant en liste d'attente, parce que le télescope a vu un transit et il faut le confirmer. Donc, il faut en observer plusieurs. Et donc, là, on peut faire appel à des clubs amateurs. Donc, merci, Pascal Burlot de Astronomie Nova. Donc de nous présenter un travail par rapport à ce sujet-là. Tu viens le connecter, s'il te plaît ?
Bon, la transition est toute faite, puisque finalement la détection des exoplanètes est un peu dans le prolongement du transit de Mercure. Et je vais vous présenter donc mon petit diaporama sur la question. Rassurez-vous, ce ne sera pas trop ardu. Voilà. Que j'ai intitulé Exoplanète chasse ouverte. Pourquoi chasse ouverte ? Parce que jusque-là, c'était chasse gardée, jusqu'à quelques années. C'est d'ailleurs une histoire très récente, hein, puisqu'elle a commencé réellement à partir de 1995. Sachant qu'il y a quand même très 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 longtemps que certains se doutent que d'autres mondes habités existent. En tout cas, d'autres étoiles possèdent des systèmes planétaires. Donc ça fait, c'est une, quand même une connaissance qui est très ancienne, sachant qu'elle n'avait pas été prouvée, mais qu'elle avait été quand même largement suspectée. Et il ne faisait pas bon à l'époque affirmer ce genre de choses, puisque dans le cas de Giordano Bruno, par exemple, ça s'est terminé sur le bûcher. Si on prend d'autres exemples, comme Galilée, il a fallu qu'il parjure. Si les scientifiques étaient dans la même logique aujourd'hui, on n'aurait toujours pas prouvé l'existence d'exoplanètes. Heureusement, on n'est plus à l'Inquisition. Et cocorico. Ce sont deux astronomes qui sont bien connus par chez nous, qui ont détecté réellement la première exoplanète, sachant que par le passé, certains objets avaient déjà été détectés, mais n'avaient pas été confirmés comme exoplanètes. Là, ce jour-ci, donc en 1995, c'est le 6 octobre, nos deux astronomes, Michel Mayor et Didier Queloz, ont pu détecter la première exoplanète. Ça avait fait grand bruit à l'époque, 51 Pegasi B, ça avait fait grand bruit. Depuis, évidemment, l'eau a coulé sous les ponts et l'histoire s'est accélérée, puisque près de 2000 exoplanètes ont été détectées, 3000 candidats supplémentaires sont en attente, et l'histoire va s'accélérer encore plus fort, puisque maintenant, les moyens déployés pour la détection des exoplanètes sont sans commune mesure avec ceux qui ont été utilisés jusqu'à présent, et ceux qui arrivent sont encore beaucoup plus puissants, puisque on va faire travailler les télescopes géants. D'autres télescopes satellisés continuent à travailler et à engranger énormément de découvertes d'exoplanètes. Chose intéressante, je vais vous passer rapidement sur les méthodes. Les méthodes actuellement qui sont utilisées sont la méthode des vitesses radiales. On détecte le mouvement de l'étoile par la perturbation que la planète exerce avec son orbite. C'est-à-dire que l'effet gravitationnel induit sur l'étoile une petite perturbation. Il faut savoir quand même que généralement, ce sont des planètes très massives qui occasionnent ce genre de perturbation. Cette vitesse radiale, elle est tout simplement observée et mesurée. Et elle trahit la présence d'un objet massif qui n'est pas vu, mais qui est donc détecté. On est toujours un peu dans le même mode, mais ce coup-ci, on observe non plus perpendiculairement, hein, comme précédemment, mais on observe le phénomène donc un peu par la tranche. Donc moins orienté, hein, l'orbite est plus dirigée vers nous, l'instrument qui l'observe. Et la détection va se faire cette fois-ci par tout simplement l'effet Doppler. Donc on reprend la technique de la spectrographie. Hein. Le déplacement apparent de l'étoile qui, évidemment, c'est très minime, hein, se rapproche et s'éloigne de l'observateur, du télescope. Ce déplacement est rendu apparent du fait du décalage spectral vers le rouge, vers le bleu, alternativement. Et là encore, ça trahit la présence d'un objet massif qui tourne autour de l'étoile. Alors, pour être tout à fait honnête, cette méthode, elle est quand même très pointue, et seuls quelques astronomes dans le domaine amateur s'y attaquent. Tout à l'heure, j'ai entendu citer Christian Buhl en niveau spectro. Effectivement, c'en est un qui est capable de faire des mesures de cet ordre-là. Mais la méthode que, évidemment, les amateurs vont affectionner, c'est l'éclipse. Hein. Là, bon, il faut savoir quand même qu'énormément de planètes sont découvertes de cette façon-là, avec les télescopes spatiaux. Mais que, pour certaines, alors loin de tout, hein, évidemment, avec nos moyens, mais pour certaines, le challenge devient possible, avec du matériel d'amateur. Là, évidemment, la différence de magnitude hein, est extrêmement faible, puisqu'on parle de quelques millièmes à quelques centièmes de magnitude. Bien savoir que on détectera plus facilement, évidemment, des planètes de style Jupiter plutôt que des planètes de style Mercure. Enfin, l'observation directe, j'en parle, mais ça ne nous est pas accessible du tout. Je parlais tout à l'heure des télescopes géants tels que celui qui va bientôt sortir de Terre, qui est en construction, l'Extremely Large Telescope. Celui-ci sera à même de détecter et d'observer des exoplanètes directement. Alors c'est déjà fait, mais il y en a quand même très peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Alors c'est des idées, je me lance. Ça c'est ce que le défi que je me suis lancé. Pour le moment, je ne l'ai pas tenté. Mais je sais que dans la communauté des astronomes amateurs, un certain nombre l'ont réalisé. Et je me suis dit, s'ils l'ont fait, je dois pouvoir le faire. Donc il y a un certain ordre à respecter. C'est une démarche hein, qui va permettre de se lancer dans ce challenge. Et si on respecte bien la démarche, on doit pouvoir y arriver. Il faut quand même avoir un minimum de prérequis. Ce n'est pas en se levant le matin et en posant le pied par terre, on se dit « je vais détecter une exoplanète ». C'est plutôt réservé à une clientèle qui est déjà habituée à faire de l'imagerie, qui est plutôt équipée, ou s'il n'est pas équipé, qui a accès à du matériel, qui sait donc imager, qui sait traiter, et de préférence sous un ciel le moins pollué possible. Donc le prérequis, c'est déjà avoir un petit passé d'imagerie stellaire, d'imagerie, que ce soit les objets nébuleuses, planétaires ou autres. Quand on sait maîtriser ça, on peut se lancer dans la détection des exoplanètes avec un minimum de matériel, je dirais, une ouverture généralement acceptée à partir du C8, hein, donc un 200 mm. Moi, je pense que je le tenterai à faire avec une ouverture un peu plus faible sur une lunette, avec une lunette. Mais je pense avoir mes chances sur des étoiles pas trop faibles, avec une planète qui l'occulte suffisamment, c'est-à-dire de plusieurs centaines de milli. Et non pas de magnitude. Oui. Et pour ce faire, on va s'aider donc d'une base qui est publique et qui émane du site d'astronomie de Tchécoslovaquie, la base EDT. C'est une base qui est en anglais, je vais vous montrer un écran. Et il y a évidemment des conditions. Le transit, donc sur cette base EDT, il y a la compilation de toutes les exoplanètes découvertes par transit. À partir de là, la carte d'identité de chaque exoplanète est connue avec sa périodicité. Donc on sait parfaitement dans la liste, il y en a quelques centaines, on sait parfaitement dans la liste quelles sont les exoplanètes qui peuvent nous intéresser. en fonction de la période, en fonction surtout de la difficulté. Donc, pour un débutant, je dirais, il vaut mieux, comme dans mon cas, rechercher une cible qui soit plus facile que les plus difficiles. Évidemment, le créneau horaire. Hein. Il faut savoir que l'ensemble de la démarche s'inscrit sur plusieurs heures, je dirais entre 5 et 6 heures. Alors voilà à quoi ça ressemble, hein, un écran sur EDT. Donc sur cette page, vous avez donc à un jour donné une liste d'exoplanètes qui s'affichent. Et première remarque, il y en a beaucoup, donc il y a le choix. Et en fait, on se rend compte que les périodes des exoplanètes sont très courtes, ce qui laisse en fait énormément de choix, et on en a en fait une dizaine ou plusieurs dizaines par jour. Donc, ce qui laisse largement le temps de se préparer et de choisir. Donc, sur ce tableau, on a le début du phénomène, prévisible, le maximum et la fin du phénomène. On a toutes les coordonnées, évidemment, de l'étoile qui s'y rapporte, et il n'y a plus qu'à. Vous trouverez toutes ces informations donc, sur EDT Exoplanet Transit Database. C'est fait partie intégrante du site VAR2Astro. CZ, donc c'est un site de Tchécoslovaquie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces données que l'on va collecter, eh bien, on va les leur transmettre. On va utiliser pour ça un petit utilitaire qui s'appelle MiniWin, qui est libre, et qui va nous permettre d'établir une courbe la plus précise possible, afin de pouvoir d'abord vérifier qu'on a bien enregistré une baisse de luminosité sur cette étoile, et ensuite la comparer avec celle qui existe déjà et la transmettre pour validation. Donc voilà ma belle courbe future. C'est une expérience réelle hein, qui a été réalisée, pas par moi. Donc cette jolie courbe de baisse de luminosité est envoyée donc au site, afin de la faire valider. EDT vous la renvoie et l'accepte ou la rejette. Et si elle est acceptée, vous êtes validé et ajouté à la base de données. C'est-à-dire que votre nom figure dans la liste des découvreurs avec les données que vous avez fournies. Certaines exoplanètes n'ont plus besoin vraiment de confirmation, puisqu'il y a des centaines de contributeurs qui ont déjà donné des informations. Donc là, je crois que ça y est. Bon, pour s'amuser, pour le fun, je pense que c'est quand même très intéressant de participer à la démarche. Je suppose que les plus faciles ont été faites en premier, et puis ensuite, on peut essayer de taper plus fort, selon ses moyens. Voilà donc la confirmation que la mesure correspond à la prédiction. Et comme je vous disais, donc cette contribution fait apparaître votre nom dans la liste pour cette exoplanète, avec la date, vos acquisitions, tous les paramètres qui ont servi. Donc sur la colonne de droite, vous avez le nom des contributeurs, ainsi que leur courbe. Donc pour aller plus loin, vous avez un guide sous forme d'un PDF que vous pouvez télécharger sur ce site et qui est vraiment très très bien fait parce qu'il est, il est pas prise de tête, il est vraiment super pratique et il vous permet d'aller du début à la fin. C'est presque un tutoriel complet. Je vous rappelle quand même que toutes les notions de base, il faut quand même les avoir, la mise en station et compagnie. Voilà, l'imagerie du ciel, bon, il faut quand même savoir faire. Mais si vous savez ça, vous pouvez y aller. En tout cas, moi, mon collègue Pascal Langlais également ici, du club Astronova, on attaque. et on compte bien afficher notre nom dans le tableau.
Voilà.
Voilà, je vous remercie.
Merci. Donc voilà, donc dans l'attente d'une sorte de publication dans quelques temps. Je vois le temps, je voudrais qu'on passe peut-être directement à des informations, on va dire, entre clubs, au niveau d'événements annoncés, enfin, qu'il y a à l'agenda. Alors, ce qui se passe dehors pour le soleil, j'en ai aucune idée. Donc, il y avait une observation qui était prévue, voilà. Je ne sais pas si on peut toujours observer, mais voilà, ceux qui sont intéressés par l'observation du soleil, vous pouvez aller faire un petit tour dehors. Donc, c'est sur l'esplanade, à peu près là où on a fait la photo. Pour ceux qui veulent échanger, il y aura peut-être quelques annonces quand même de festivals à venir, de petites choses. Là.
Après là. Bon, j'avais la parole, je vais la garder un peu. Le Club Astronomie Nova de Sèvres-Anxaumont donc organise donc immédiatement le transit, l'observation du transit de Mercure à Sèvres-Anxaumont, au bourg de Sèvres-Anxaumont, donc le 9 mai. Ce sera paru dans la presse également pour toutes les informations. Observation publique et gratuite. Mais l'événement pour nous majeur du club, hormis la nuit des étoiles, généralement en partenariat avec l'association de Saint-Benoît, ce sera les Astronovades que nous reconduisons cette année. Les Astronovades, donc, qui est un week-end complet d'intégration totale en astronomie sur deux jours, deux nuits. À la Bussière, donc les places sont limitées, les souscriptions vont bientôt commencer. Nous en sommes à la troisième édition et ça se passe plutôt pas mal dans un environnement évidemment dégagé de pollution lumineuse, en toute sympathie et en toute convivialité. Un petit monde d'astronomes passionnés évidemment. On était 15 l'année dernière, on peut monter jusqu'à 25 pour cette année.
Tu as dit les dates ?
Non, j'ai pas dit les dates. 30 septembre, 1er et 2 octobre. Oui. Ce qu'on y fait, principalement, ce sera pour la nuit des observations, donc avec instruments perso et instruments du club. Et dans la journée, des ateliers, donc ateliers astrophotographie, traitement d'image, ateliers également exoplanètes et d'autres ateliers à venir. Généralement, ça se passe plutôt bien. Et on peut faire également une visite à l'extérieur. Et ça se termine le dimanche midi au restaurant. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel ? Vas-y, ça te brûle la langue. et tout cela pour moins de 80 euros, hébergement compris. Ces informations vous paraîtront en ligne et vous en aurez, alors par la presse spécialisée, vous en aurez l'information.
Donc la Société astronomique de Touraine organise les 5, 6, 7, 8 mai prochains la quatrième édition des Nuits astronomiques de Touraine en partenariat avec Astronomie Magazine. Donc il s'agit d'une rencontre, donc c'est la quatrième édition, hein, donc c'est une rencontre d'astronomes amateurs. On dit que c'est le grand quart nord-ouest de la France. Il y a des gens, évidemment, qui peuvent venir d'ailleurs, mais globalement, il y a des astronomes amateurs qui viennent de Bordeaux à la Picardie, la région parisienne, Bretagne, Normandie, la Sarthe, et puis le Poitou, etc. Donc, c'est une sorte de... Ça se passe en même temps que les RAP, qui sont, elles, davantage sur la zone Rhône-Alpes, Alpes, Rhône-Alpes et le sud. Donc voilà, on a plutôt des personnes qui viennent de cette zone géographique. Donc il y a une grande clairière autour de l'observatoire qui permet de camper, d'accueillir des tentes, des caravanes, des camping-cars. On a à la fois évidemment de l'observation en soirée. On peut installer ces télescopes tout dans la clairière, au milieu de la clairière, au pied de l'observatoire de la Société astronomique de Touraine. Et il y a tout au long de la journée, de 11h le matin à 22h, c'est-à-dire après dîner, des ateliers, des conférences, sur tous les thèmes liés à l'astronomie amateur ou professionnelle. Ça va de d'un atelier de collimation d'un Schmidt-Cassegrain, une conférence sur la météorologie de par Météo France, ou des interventions des conférences à 18h et 20h30. Christophe Pellier sur Mars, Nicolas Bivert sur le bilan de Rosetta, les nouveaux capteurs par Philippe Bernard de l'AIP, la matière noire par Richard Taillet de l'Université de Savoie, la géologie des astéroïdes, les ondes gravitationnelles par un astrophysicien de l'Université de Tours. Enfin voilà. Et puis beaucoup d'ateliers très pratiques, rénovation d'une lunette ancienne, initiation à la spectro, etc. Enfin beaucoup de choses. Donc les ateliers, c'est toute la journée de 11h à 22h. Et l'observation ensuite. Il y a de la restauration possible sur place. Il y a un traiteur. L'inscription, c'est 25 euros avec l'hébergement, enfin la possibilité de poser sa tente ou sa caravane. Et les repas sont ensuite, il faut les réserver sur le site. Il y a un site, astrotouraine.fr. Voilà, je pense avoir tout dit. Et les personnes qui voudront rester le lundi matin, le lundi pour observer le transit de Mercure, resteront. On n'a pas pu l'avoir plus tôt. Quoi. Donc, voilà. Et puis, il y a des ateliers, il y a des fournisseurs de matériel. Il y a le moulin de Blandé qui est présent. Il y a différents magasins et autres qui présentent du matériel. On devrait avoir du matériel en démonstration ou présentation. Voilà.
Merci.
Il y a des affiches et des tracts à votre disposition ici.
Voilà, et puis on reliera donc un article hein, sur voilà, le site.
Voilà, hein, on peut mettre le lien.
Je le publierai sur emf.fr et puis on le mettra dans Scoop.it.
Voilà.
Voilà. Y a-t-il d'autres événements à évoquer ? Oui.
Oui, nous, c'est une fête qui n'est pas directement liée à l'astronomie, mais au soleil, puisque c'est le 13 et 14 août à Lussac-les-Châteaux, dans le cadre de la défense d'un barrage d'une ancienne minoterie. Et on fait une fête, voilà. Et donc, le thème, c'est aussi sur les énergies renouvelables, dont les énergies solaires. Donc, tous les éléments de connaissance sur le soleil et de maquette et tout ça seraient les bienvenus pour Merci. Exposer.
Quoi qu'il y a un rapport avec le soleil, puisque, en fait, avec Astronomie Nova, bien, nous sommes en train de réaliser une exposition qui sera fini au 20 juin. Oui, ça sera fini. Le 20 juin, voilà. Et qui sera présenté donc aussi à cette occasion-là. Voilà, y a-t-il encore des choses, des dates annoncées ?
Oui, la Société des sciences de Châtellerault a sa section astronomie qui se propose des conférences tous les quatrièmes mercredis de chaque mois. Les conférences à venir, mercredi 25 avril, c'est avec François Vanucci de Jussieu, astrophysicien, de l'électron au boson de Higgs. Bon, j'espère que ça sera assez clair et accessible, mais néanmoins très intéressant. Le docteur Françoise Combes, c'est astrophysicienne Paris-Meudon. Elle viendra, elle, le mercredi 27 mai, 18h30, même heure, 18h, pardon, même heure, pour présenter un peu de lumière sur la matière noire. Et puis, les prochaines conférences ne sont pas encore fixées pour la fin de l'année. Des observations, alors, en train d'être concrétisées, ce qu'on fera le lundi 9 mai pour le transit de Mercure. Participation à la nuit des étoiles, comme chaque année, ça se passe à Archigny, dans la Vienne. Et puis, quelques observations qui sont annoncées peu de temps à l'avance, en raison du temps à prévoir. Et quelques visites aussi au planétarium. Voilà un petit peu le programme. Le site Société des sciences est actuellement en reconstruction. Donc, dans un mois à peu près, ou deux maximum, il va être en fonction. Voilà, merci.
Merci.
Pour la Société des sciences Châtellerault.
Voilà, y a-t-il d'autres annonces ? Non ? Bien. Alors, on va arrêter pour cette partie-là. Un tout petit message par rapport donc à ce matin. Il y avait des règlements qui étaient en attente, surtout tous les règlements en liquide. Donc là, vous pouvez retourner à l'accueil. On pourra faire ce qu'il faut. Donc, mini pause et puis on va passer au dîner. Et puis rendez-vous tout à l'heure à 20h30 pour la conférence d'Agnès Sacquer qui fait vraiment l'effort de venir parce qu'elle est malade.